Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La guerre au Moyen-Orient a aussi des conséquences dans les magasins. Vous allez voir avec des ventes en baisse de 5% au mois de mars après les chiffres qu'on vous révèle ce matin sur RMC. Une question ce matin, les discussions historiques vont-elles reprendre avec les dirigeants d'Israël et du Liban? C'est ce qu'affirme Donald Trump ce matin. Et vous allez voir aussi que le maire d'une commune des Côtes d'Armor a passé la nuit en prison, mis en examen après la mort d'une habitante qu'il a voulu hospitaliser de force la semaine dernière. RMC est sur place.
Le constat ce matin, c'est que les Français font attention à la moindre dépense.
Avec la crise au Moyen-Orient qui a fait grimper les prix des carburants et qui entraîne même une baisse des ventes d'environ 5% donc en mars sur un an. Dans les commerces du réseau Procos, qu'on vous dévoile donc ce matin sur RMC, Cassandre Aubron parle là de l'alimentation, des jouets, d'immobilier, vraiment de tout.
Oui, et d'abord les enseignes de l'habillement, elles enregistrent une baisse de 4,4% de leur chiffre d'affaires en magasin par rapport à l'année dernière. Pour Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, c'est en lien direct avec la hausse du prix des carburants et la situation internationale.
Un climat pesant lié au Moyen-Orient qui fait que les Français qui sont peut-être pas dans les grandes agglomérations, mais qui sont dans les villes moyennes, qui ont besoin de leur voiture, commencent à arbitrer leurs achats et à s'inquiéter pour leur consommation future.
Et à cela s'ajoutent, selon lui, les touristes internationaux, notamment originaires du Moyen-Orient, qui ont moins voyagé. Dans les magasins de bricolage aussi, les clients se font plus rares dans les allées, ils reportent leurs travaux, achètent l'essentiel, me raconte un vendeur d'une célèbre enseigne. Une baisse de la fréquentation confirmée par la Confédération nationale de l'équipement du foyer, qui observe aussi une baisse du panier moyen. Et d'après un sondage Elab pour BFM TV publié hier, un Français sur trois a renoncé à faire du shopping en raison de la hausse du prix des carburants.
Alors le gouvernement à ce sujet avait émis l'idée d'encadrer les marges des distributeurs qui s'en offusquent depuis hier. Finalement, aucune décision n'a été prise. Voilà ce qu'assure le gouvernement qui, d'après BFM TV, a écrit à la Commission européenne pour lui demander une enquête sur les marges des raffineurs depuis le début de la guerre. On en est à 48 jours. Ce matin, l'Iran menace de bloquer la mer Rouge si les États-Unis ne lèvent pas leur blocus maritime en amont du détroit d'Ormuz. Alors l'information majeure, Romain, que vous allez nous la détailler pour RMC, c'est que les discussions entre Israël et le Liban, certainement directement avec les dirigeants, doivent reprendre aujourd'hui, si on en croit la dernière sortie de Donald Trump.
Oui, le président américain s'en réjouit même sur ses réseaux sociaux. Voilà 34 ans que les deux dirigeants ne s'étaient pas parlé, écrit-il. Ça va se faire, great, super. Mais le président américain, comme à son habitude, s'est-il emballé trop vite. À l'instant, une source officielle libanaise dit ne pas être au courant d'un prochain contact avec Israël. D'ailleurs, Donald Trump n'avait pas non plus précisé qui allait se parler exactement. Exactement, les premiers ministres, les présidents. Ce que dit le président américain, c'est que ces discussions font suite au premier pourparlers direct mardi entre le Liban et Israël. La question la plus urgente est la suivante. Y aura-t-il un cessez-le-feu? Depuis début mars, les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 2000 morts et 1 million de déplacés. Le cabinet de Benjamin Netanyahou affirmait hier étudier cette hypothèse. Le premier ministre israélien qui a en tout cas posé des conditions hier soir dans une allocution télévisée. L'objectif numéro 1 des négociations avec le Liban, c'est le démantèlement du Hezbollah, le mouvement chiite terroriste qui a déclenché les hostilités en s'alliant à l'Iran pour frapper Israël. Lui ne veut pas entendre parler de négociations associant ce dialogue, je cite, à une capitulation.
Et Israël ne veut pas de la France dans ces négociations, ce qui donne lieu d'ailleurs à une joute verbale entre diplomatie française et israélienne. Et alors c'est dans ce contexte qu'il va encore y avoir certainement des secousses à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où sera examinée la proposition de loi déposée par la députée Renaissance Caroline Yadan, soutenue par le gouvernement et visant, je cite là, à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Mais alors cette loi, ce projet de loi, cette proposition est très critiquée. Sonia Gobry du service politique à RMC. La gauche y voit une censure de la critique envers Israël et même une partie du bloc central est contre ce texte. Ça va peut-être bien s'ajouter à la liste de tous les camouflés pour le gouvernement depuis le début de la semaine.
Le plus ouvertement opposé, c'est le MoDem. Les contours de ce texte sont trop flous, reproche le chef de file du groupe, Marc Fesneau.
Pour lutter contre l'antisémitisme, il faut être ferme, clair et avoir des terminologies qui soient précises. Manifestement outrancière, dès qu'il y a du flou dans une loi, il n'y a pas de loi.
Pour l'élu centriste, cette proposition de loi vient nourrir un amalgame entre juifs de France et politique israélienne. Marc Fesneau estime que le texte dessert la lutte contre l'antisémitisme et met de l'huile sur le feu.
À chaque fois qu'on a des textes comme ça, c'est pas serein. Ça s'est toujours fini en pugilat. Alors je sais pas à quoi on gagne. On sert une tribune à M. Mélenchon.
Hors micro, certains députés Renaissance confient leur malaise, même si le texte émane de l'une d'entre eux, Caroline Yadan. Pour elle, ceux qui voteront contre sa proposition de loi cèdent à la pression de LFI.
Je comprends les inquiétudes, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on touche en fait à quelque chose de sacré, qui est la liberté d'expression, mais comme je vous l'ai dit, ce texte n'empêche pas la critique d'Israël.
Mais preuve du remous, à mots couverts, des députés de gauche comme de droite laissent entendre qu'ils ne regretteraient pas que le programme chargé de l'Assemblée conduise à un report de l'examen de ce texte.
Alors ce matin, ce sont des écrivains qui mènent une fondre. 115 auteurs signent une lettre dans laquelle ils annoncent leur départ de la maison d'édition Grasset, qui appartient au groupe Bolloré. Célestin Bougère pour RMC. Il nous explique que c'est pour s'opposer au licenciement du patron historique.
Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy, Frédéric Becbédé ou encore Vanessa Springora, tous ces auteurs de poids ont claqué la porte. Nous ne voulons pas que nos idées, notre travail soient sa propriété. Les 115 auteurs reprochent à Vincent Bolloré l'éviction d'Olivier Nora, en poste depuis 26 ans à la tête de la maison Grasset. Aucune raison n'a été donnée officiellement pour expliquer le départ de cet éditeur respecté, mais on savait que les deux hommes avaient de profonds désaccords. Olivier Nora s'était porté garant de l'indépendance de Grasset après le rachat de sa maison mère, le groupe Hachette, par Vincent Bolloré il y a 3 ans. Dans une lettre, les 115 auteurs disent refuser d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. C'est Jean-Christophe Thierry, PDG de Louis Hachette Group et homme de confiance de Vincent Bolloré, qui doit succéder à Olivier Nora à la tête de Grasset.
Il est 8h06 et on en parlait un petit peu plus tôt dans la matinée sur RMC. On apprend donc ce matin que le maire de Plouane, commune des Côtes d'Armor, a été mis en examen et écroué une semaine après avoir voulu hospitaliser de force une habitante de 66 ans qui est décédée depuis. Maintenue au sol pendant 15 minutes et même les jambes attachées à l'aide d'une corde, selon les mots du procureur de Saint-Malo. Le village tout entier cherche depuis à comprendre, nous dit Constance Bostoen du service police-justice à RMC.
Derrière le bar de son PMU, Christophe, le gérant connaissait bien Catherine, la sexagénaire qui est décédée.
Venir me voir moins une fois par jour, venir chercher ses cigarettes, ses feuilles ou boire un petit café.
Mais selon lui, depuis quelques temps, elle était devenue plus agressive, comme l'explique aussi Emmanuel, une habitante.
On voyait qu'elle était un peu perturbée, qu'elle était plus excité que d'habitude.
Un comportement qui pousse le maire, son adjoint et deux autres personnes à intervenir à son domicile la semaine dernière avec l'objectif de la faire interner en psychiatrie. Pendant 15 minutes, ils la maintiennent au sol, lui attachent les jambes. Selon l'autopsie, c'est cette intervention qui coûte la vie à la sexagénaire. Lundi, tous sont placés en garde à vue, mais ici, beaucoup, comme Christian, estiment que les deals n'avaient pas de mauvaises intentions.
C'était dans un esprit de vouloir le bien de sa ville qui est intervenu.
Aucun arrêté municipal d'hospitalisation sous la contrainte n'avait été pris par le maire de Plouane. Pour autant, pour Jean-Claude Barbet, le deuxième adjoint de la commune, pas question de ne pas soutenir le maire.
C'est un maire qui a fait des bonnes actions par le passé et au présent, mais il a cédé sous la pression des riverains.
Une enquête est en cours pour violence volontaire ayant entraîné la mort et la famille de la victime a porté plainte.
C'est le Bayern qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Ça va arriver très très vite, hein. Vous pouvez déjà noter les dates. Match aller le 28 avril à Paris, match retour le 6 mai à Munich où le Bayern a éliminé le Real hier soir en gagnant 4-3, match incroyable. Les Français sont fait remarquer en bien pour Mbappé et Olise qui ont marqué, en mal pour Kamavinga qui a été expulsé. Et l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions va opposer l'Atlético à Arsenal. Et alors ce soir, c'est Strasbourg qui sera condamné à l'exploit pour remonter un écart de 2 buts face aux Allemands de Mayence. Ça, c'est le quart de finale retour de Conférence League et ce sera à vivre évidemment à 21h sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur RMC.
RMC défend votre pouvoir d'achat.
Oui, parce que toutes les demi-heures, on vous offre votre plein d'essence sur RMC. 120 €, toutes les demi-heures. 120 € toutes les demi-heures. C'est aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Vous recevez 120 € d'essence en envoyant plein au 732-16. Plein au 732-16. Vous avez 15 minutes pour jouer à partir de maintenant. Ça revient toutes les demi-heures. Et d'ailleurs, l'un de vous sera en direct avec nous, l'un des gagnants, en direct avec nous à 8h20. Plein au 732-16.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Il est 8h08 et on parle économie avec vous, Emmanuel. Économie et simplification, puisque cette loi de simplification de la vie économique a enfin été adoptée au Parlement hier. Est-ce que ça va vraiment avoir des effets au quotidien, notamment pour les entreprises ?
Alors, pour être honnête, Apolline, cette loi, elle fait quelques petits pas par rapport à ce qui serait nécessaire pour aller vers, effectivement, une vie plus simple pour nos entreprises. Mais c'est des petits pas qui nous emmènent un peu plus loin quand même que la plupart des lois de simplification passées. Ces lois de simplification passées, hein, elles ont été proposées, alors c'est simple, par quasiment tous les gouvernements depuis le début du XXe siècle. Tous nous promettaient le grand soir, mais tout ça n'a pas empêché la France de se retrouver aujourd'hui 115e sur 138 pays quand même, sur le critère de la réglementation et de sa complexité dans le palmarès du Forum économique mondial sur la compétitivité. Alors cette loi, elle va faciliter les relations des entreprises avec l'État, avec les banques et les assurances. Il y aura moins de frais bancaires, il y aura des délais d'indemnisation mieux encadrés, par exemple, en cas de sinistre, et il y aura plus de recours possibles contre l'administration, et puis un accès facilité aussi à la commande publique, notamment via une plateforme unique.
Au final, est-ce que cette loi, elle va vraiment permettre à nos PME, notamment, d'économiser du temps et de l'argent ?
Alors, au quotidien, oui, il y a quand même quelques évolutions bienvenues. Hein. Cette loi, elle protège mieux la trésorerie des commerçants pour lisser les loyers des baux commerciaux, par exemple, pour plafonner les dépôts de garantie ou faciliter certains travaux. Elle simplifie les cessions d'entreprises. Les projets de normes qui concernent la vie économique seront d'abord testés sur un échantillon d'entreprises. La France était un pays qui ne testait jamais.
Donc on se rendait compte après que ça marchait pas.
Exactement.
Mais trop tard.
Et ben là, au moins, on fera des expérimentations. Et puis, la loi permet des dérogations pour accélérer des projets industriels et énergétiques. C'est le fameux effet Notre-Dame.
Hein. C'est-à-dire ce régime d'exception vis-à-vis notamment des normes sur l'environnement, sur l'urbanisme, qui avait permis de reconstruire Notre-Dame en 5 ans.
Espérons que ce n'est quand même que le début de la grande simplification dont la France a besoin. Et rappelons que c'est quand même le meilleur moyen de faire des économies parce que...
Ça coûte pas grand-chose.
Ça coûte 100 milliards. Ça coûte 100 milliards. Oui, vous avez raison.
Oui,
ça coûte rien.
Ça coûte rien de les enlever.
Et ça rapporte beaucoup.
Et ça rapporte
mais qu'est-ce
beaucoup.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus intelligent que ça aujourd'hui? Ça fait plaisir à tout le monde. Ça simplifie la vie de tout le monde. Ça se voit au quotidien. Ça permet de faire beaucoup d'économies. Allons-y. Continuons.
Allons-y gaiement. Les prix du jour. Évidemment, comme chaque jour, le journal de l'énergie avec vous, Emmanuel. Ça monte ou ça descend?
On est plutôt stable. Le gazole, on est à 2,30 hier. C'était 2,29 la veille. Le sans plomb, 95. On est vraiment à 1,99. Là, pareil, c'est à peu près stable depuis le début de la semaine. Le pétrole, on est dans une fourchette étroite, hein, entre 95 et 100 dollars, plutôt dans le bas en ce moment de cette fourchette. Et puis, la bonne nouvelle qui continue jour après jour, c'est la baisse des prix du gaz. Hein. On est à 41 euros le mégawattheure contre 45 en début de semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, avant la crise, on était à 30. On est monté à 60.
Et aujourd'hui, donc là, on est redescendu
à 40. Donc, on a refait quand même une partie du chemin de la hausse et c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel Le Chypri, les 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Je viens nous rejoindre. Il y aura aussi le face-à-face. Dans le face-à-face, mon invité, c'est Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Il possède 1000 stations essence sur tout le territoire. Le gouvernement leur demande de réduire leur marge. Les distributeurs sont très en colère. Ouais, mais moi, je veux bien, mais à un moment, il va bien falloir que ça baisse. Et comment faire pour que ça baisse? Il y aura aussi face à Canteloup. Tous les jours, Nicolas Canteloup est en direct sur RMC à 8h50. Restez bien avec nous, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16. Ouais. Et c'est tous les jours qu'il y a.
Ça chahute déjà. On en profite.
Faut quand même le dire, on s'entend tous.
Mais
très
oui.
Bien. Et donc, c'est vrai que pendant les petits moments de pub, on se raconte notre vie.
Et voilà. On se raconte des histoires drôles, et on déconne. Et voilà.
Allez,
et en plus, on en profite parce que sinon, enfin, c'est la misère, quoi. Ma pauvre Apolline, mon pauvre Mathieu, Géraldine, Virginie. Les horreurs de la guerre. Ça continue, puisqu'après, les carburants. Maintenant, c'est les pistaches.
Là.
Ils sont impactés par la guerre, la pénurie explose, les prix montent. Manu Le Chypre vous en a parlé cette semaine ici et il a même laissé éclater sa colère sur BFM Business.
Bonjour. Aujourd'hui, l'impact économique du blocage du détroit d'Hormuz. Emmanuel Le Chypre, vous voulez... Bah, enfin, choubinou, qu'est-ce que tu fais en tenue de camouflage avec un masque et des palmes ?
Non, c'est juste que si on commence à toucher à la bouffe, ça va chier. Alors moi, je pars dans le Détroit et on va voir s'il y a toujours un blocus.
Oh mon héros, non ! Ne fais pas ça, ne t'en va pas ! On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je veux marier père !
Non, Moumoun, c'est mon devoir. Je peux pas laisser à mon fils un monde sans pistache. S'attaquer à l'apéro, c'est s'attaquer à la France.
Effectivement, Macron doit parler.
Française, Français, nous sommes en guerre. Ils s'en prennent à nos valeurs, à notre mode de vie. Aujourd'hui, l'apéro est une cible. Et demain, si nous n'y prenons pas garde, les cacahuètes et les chipsters seront visés. Bon, on a du bol, le cochonou est pas trop produit dans la région, donc ça va. D'ailleurs, aujourd'hui, RMC offre aux auditeurs leur plein d'essence toutes les 30 minutes. Et ça, c'est... Ah, non, pardon, Grégory, notre directeur d'antenne, vient de m'écrire, l'opération est annulée. RMC vous offre dorénavant 120 000 pistaches. Vous faites tourner la roue des pistaches. Et la roue des pistaches vous donne un numéro pour ouvrir le coffre des pistaches, Apolline. Et dedans, il y a 12 pistaches numérotées, sauf qu'il y en a 11 de vide. C'est juste la coquille. Il faut trouver la bonne. Et là, vous gagnez votre poids, 120 000 pistaches.
Greg, bon, il est prêt à faire le 120 000 pistaches.
Alors, je me suis informé sur les produits bloqués par la fermeture du Détroit. Donc, il y a le pétrole, le gaz, la pistache, le chocolat à la pistache de Dubaï. Bien c'est sûr, suite à une seule bouchée, t'as les fesses de Kim Kardashian. De bloqué, il y a aussi le droit des femmes et la démocratie. Mais alors là, c'est bouché dans l'autre sens de navigation. Oui. Ils ne peuvent plus en importer. Bon, après, ce n'est pas des gros consommateurs non plus.
Non,
c'est moins grave pour eux que nous, les pistaches.
Donald Trump a dévoilé les plans de l'Arc de Triomphe qu'il compte faire construire aux États-Unis.
Oui, un arc qui ressemble aux Français, mais en plus gros. La définition d'un Américain.
Oui. Nous,
quand on voyage dans un pays étranger, on ramène une épice ou une boisson locale. Lui, il ramène des bâtiments. J'ai aimé l'Arc de Triomphe, je le veux. Trump, il se construit en ce moment une salle de bal, un Arc de Triomphe. En fait, il est dans sa période, j'aime les grues et les tracteurs.
Oui.
Il a les mêmes plaisirs qu'un enfant de 4 ans. Il a, oh, le beau tractopelle. Là, il a une petite période, j'aime les fusils et les bateaux. Mais bon, ça va se calmer, hein. Apo, vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Dans 3 semaines, il va attaquer la phase dinosaure.
Oui.
Je vais ressusciter des tyrannosaures et les lâcher en Iran. Oh, oh, un dinosaure.
Pas du tout, je suis Jack Lang.
Vous vous souvenez de moi? On s'est croisés dans le jacuzzi de Woody Allen chez Jeffrey, avec Bill Gates et Patrick Bruel. Ça vous dit rien cette soirée?
Un amateur de recherche allemand vient d'être lancé pour répondre à la question « Mon ancêtre était-il nazi ?»
Oui. Bah oui, un peu de bonne humeur, allez, il y en a marre de la guerre.
Ça vaut tous les tests ADN.
On se détend un peu avec les nazis, quoi. Alors c'est très simple, vous rentrez votre nom de famille et hop, le site vous dit si vous avez des ancêtres nazis. C'est génial, c'est copain d'avant, mais en nazi. Copain nazi. C'est un bon jeu à faire un dîner entre amis. Bon, après c'est en Allemagne, je veux dire, il n'y aura pas un gros suspense, un convive sur deux.
C'est sûr.
Non mais, en vrai, je pense que personne va oser chercher si son ancêtre était nazi d'ailleurs. Pour vérifier le background des collègues casse-couilles, oui, il y aura des conversations à la machine à café en Allemagne. Putain, Gunther, il m'a saoulé avec le dossier Am Schmidt. Mais ça m'étonne pas, tu sais qui était son ancêtre? Ça va être ce genre de truc. On va pouvoir vérifier si la personne avec qui on parle sur Tinder, elle est safe. D'ailleurs, de l'ambiance dans les EHPAD allemands en ce moment.
Pourquoi vous me faites la tête, Dr Cohen?
Pour rien du tout. Pour rien.
Aïe! Vous m'avez fait mal.
Mais non, c'est normal. Imaginez le mec qui est à la fois dans les fichiers d'Epstein et à la fois dans le fichier nazi.
Alors là,
on a un grand
schlem.
Ouais, on peut croiser les fichiers. Puis alors, sur CNews, t'as la moitié des chroniqueurs qui vont appeler leur grand-père, là.
Je suis très déçu, papy. Pourquoi t'es pas dans le fichier? Et je passe pourquoi, moi, professionnellement? Parce que c'est limite un motif de licenciement, là-bas.
Allez, à demain. À demain.
Merci à... Arnaud de Manche, un dinosaure. Non, je suis
Pas du tout.
Il est 8h21 et comme vous le savez, aujourd'hui, toutes les demi-heures, on vous fait gagner le plein d'essence sur RMC. Et on est tout de suite avec un des gagnants d'RMC, un des gagnants du jour. Et c'est vous, Corinne. Bonjour, Corinne.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Eh bien, félicitations Corinne. Vous vivez où? Vous faites quoi dans la vie?
J'habite à Guiran, je fais 40 km aller-retour, donc ça va bien m'aider.
Ah, ça c'est super. On est content que ça arrive au bon endroit. Vous êtes donc dans l'Ardèche et effectivement, vous avez besoin de la voiture.
Ah oui. Bon. On est bien desservi quand même. On peut se déplacer. C'est pas un petit village dans la montagne. Hein. Mais bon.
Les 40 km, vous allez avoir ce plein 120 € pour vous. Merci d'écouter RMC tous les matins. Voyez, on est très heureux de pouvoir vous accompagner tout au long de la journée. Il y a toutes les demi-heures un plein à gagner sur RMC. Félicitations Corinne, et je pense notamment aussi à Claudine et à Eric qu'on vient de faire gagner, parce qu'il y en a un toutes les demi-heures. Et depuis le début d'Apolline Matin, Claudine, Eric, Corinne ont déjà gagné le plein RMC, les 120 €. Il est 8h22. Dans un instant, on va continuer à en parler du prix de l'essence, puisque mon invité c'est Dominique Schelcher. Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Il est aussi distributeur d'essence, 1000 stations sur l'ensemble du territoire. Alors je veux bien qu'il ne veuille pas baisser les marges comme leur demande le gouvernement, mais enfin il va quand même falloir trouver une solution pour que ça baisse. Réponse donc dans un instant sur RMC BFM TV. Il est 8h23. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Solène Gardré.
Le gouvernement demande une enquête sur les marges des raffineurs à la Commission européenne, selon nos confrères de BFM TV. Et alors que les distributeurs s'opposent au projet de plafonner leurs marges pour encadrer le prix des carburants. Au Moyen-Orient, le flou autour de possibles discussions entre les dirigeants du Liban et d'Israël. Aujourd'hui, Donald Trump affirme que oui, mais le Liban dit ne pas être au courant. Ce serait une première depuis 34 ans. Malgré une pétition de 700 000 signatures, le projet de loi Yadan devrait bien être examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte qui veut contrer, je cite, les formes renouvelées d'antisémitisme. À Saint-Gaudens et Tarascon, près de Toulouse, plus de 600 emplois menacés après l'annonce hier de la cessation de paiement de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence. Le tribunal tranchera fin avril. 115 auteurs quittent la maison d'édition grassée après le licenciement de son PDG Olivier Nora, en poste depuis 26 ans, et alors que grâce a été repris par Vincent Bolloré il y a 3 ans. Un maire mis en examen et écroué dans les Côtes d'Armor après la mort d'une femme de 66 ans qu'il essayait d'hospitaliser de force. En foot, le PSG affrontera bien le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir gagné 4-3 hier soir contre le Real Madrid. Et Arsenal s'est qualifié contre le Sporting Portugal.
C'était le rappel des titres de Solène Gardré. Mon invité, dans un instant, dans le face-à-face, possède 1000 stations-service sur tout le territoire. Et il refuse qu'on encadre ses marges. Alors certes, elles sont minimes, mais pourquoi ça les met si en colère, tous les distributeurs, cette proposition de décret du gouvernement pour encadrer leurs marges? Réponse dans un instant, et puis surtout réponse sur le prix de l'essence. Est-ce que ça va baisser et quand? Dans un instant, sur RMC, BFM TV, Dominique Schelcher.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin, et j'en ai plein, plein, parce que vous êtes le président de coopérative U. C'est les magasins U bien sûr, mais c'est aussi les stations U. 1000 stations essence sur tout le territoire. Il y a eu ce projet de décret hier du gouvernement. Il est écrit, il est prêt, disent-ils. L'idée, c'était d'encadrer les marges des distributeurs. Et quand on voit la colère dans laquelle ça vous a mis, vous, mais aussi tous vos camarades distributeurs, à la fin, je reviens même à me dire qu'ils ont peut-être quand même touché sur un point sensible. Vous avez réagi, ultra réagi, vous avez tout de suite écrit et vous êtes tous très en colère.
Mais non, mais on a réagi parce qu'on sait que ça va être contre-productif s'il est mis en œuvre. Alors ce matin,
Est-ce que vous avez réagi aussi parce que finalement il y avait peut-être de l'argent à perdre?
Mais non, je relativise. Déjà, j'ai entendu la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dire que rien n'est décidé et que rien n'est fait. Moi, je prends le pari que il ne sortira pas ce décret. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser croire aux Français que ça changerait quelque chose. Je rappelle la séquence. La séquence, c'est quoi? On démarre cette crise et rapidement, il y a des contrôles dans les stations. 500 contrôles, plus de 500 contrôles pour vérifier.
Annoncé personnellement, directement par le Premier ministre.
Tout à fait. Et en fait, de ces contrôles, il ne sort quasiment rien. Symboliquement, quelque chose, mais de notre côté, en tout cas, rien. Pas d'alerte, etc. Ensuite, nous, on fait de la pédagogie pour expliquer pendant de longues semaines la réalité du marché du carburant. Et au bout de 5 semaines, j'ai mesuré, au bout de 5 semaines, les observateurs, les journalistes, des hommes politiques ont commencé à dire non, 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 le sujet n'est pas chez les distributeurs. Même le ministre de l'économie a dit, moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est une enquête sur les marges des raffineurs. Il a demandé ça à Bruxelles.
On va y revenir, oui.
Et donc, et au bout du compte, on revient avec ce décret qui nous cible, nous, comme des boucs émissaires, une fois de plus, on n'a pas compris. Et c'est ça qui nous a surpris.
Alors, vous n'avez pas compris, on va venir évidemment au fond de ce qu'il vous demanderait ou ce qu'il ferait. D'abord, vous n'y croyez pas. Ce décret ne verra pas le jour.
C'est une usine à gaz qui ne changerait pas le quotidien des Français. Donc, faut pas laisser croire ça. Et je veux dire, ce serait contre-productif pour le gouvernement aussi. Au bout du compte, ça changerait rien sur une activité où on ne gagne rien.
Vous dites c'est injuste, inapplicable et illégal. Voilà ce que vous écrivez avec vos confrères, les dirigeants de Carrefour, d'Auchan, d'Intermarché, de Leclerc. Vous êtes donc les 5 premiers distributeurs français. Et vous dites c'est absurde. Sauf que l'objectif officiel, en tout cas du gouvernement, c'était d'identifier, je cite, d'éventuelles surmarges. Est-ce qu'elles existent, ces surmarges?
Mais elles peuvent exister très ponctuellement.
Est-ce qu'en ce moment, elles existent? Parce que quand même, on comprend pas pourquoi ça baisse pas.
Alors ça, c'est une excellente question que j'ai tous les jours. Pourquoi ça monte très vite et pourquoi ça baisse beaucoup plus lentement? Mais saviez-vous que ce sujet aujourd'hui est documenté? Il y a des articles d'économistes aujourd'hui qui expliquent le sujet. Quand ça monte, nous, on achète au jour le jour des camions en fonction du cours à Rotterdam. C'est monté très haut, très vite. Ça déclenche immédiatement la mobilisation des gens qui ont peur que le prix augmente encore plus et qui ont peur, voire, de pénurie. Donc, les stocks, les cuves se vident très vite et donc le prix est haut assez vite. Mais quand ça diminue, c'est beaucoup plus lent. Pourquoi? Parce que les gens pensent que les prix vont baisser.
Et donc, ils attendent.
Ils attendent actuellement nos clients, mais le nombre de clients qui font des plaintes de 20 euros, 25 euros, parfois que 15 euros, en disant « je prends le minimum, ça va baisser ». Et donc, les stocks se vident tout doucement. Et après, on le voit bien, un jour le cours monte, un jour il baisse. C'est pas, ça ne descend pas, les cours ne baissent pas aussi vite qu'ils ont monté. Alors, voilà, tout ça cumulé fait la situation
d'aujourd'hui. On va essayer quand même de comprendre comment ils pourraient baisser ces fameux prix à la pompe, Dominique Schellcher. Deux points sur votre solution, on va y revenir. Vous proposez de décaler au moins dans le temps votre participation à l'effort d'électrification et de transition énergétique. Bon, et puis il y a ce courrier, effectivement, vous le dites, au fond il y avait eu comme deux mouvements parallèles. Le gouvernement hier affiche qu'il vous met la pression avec ce projet de décret. Et puis parallèlement, il a écrit à la Commission européenne. C'est ce que BFM TV vous a dévoilé ce matin. Maud Bréjon et Roland Lescure ont écrit à la Commission européenne pour demander une enquête sur les marges des raffineurs. Mais là, on ne parle plus de vous, distributeurs, ouais, on parle des raffineurs. Ils disent, face au risque de collusion et de manipulation, la France souhaite que soient mises en œuvre au niveau européen des actions permettant d'améliorer la transparence sur la formation des prix. La France constate, depuis le début de la guerre en Iran, une forte hausse des prix des produits pétroliers raffinés, en particulier de gazole et de kérosène, au bénéfice des raffineries dont les marges ont fortement augmenté depuis février. En fait, c'est Total le problème.
C'est Total, les d'autres raffineurs, parce qu'il n'y a pas que Total, et aussi peut-être les spéculateurs de ce marché. Parce que quand c'est monté aussi vite, ils ont craint quoi? Ils ont craint une pénurie, mais au bout du compte, c'est qui le paye? C'est le consommateur final. Et donc ça, c'est embêtant. Et donc voilà, moi je suis content que cette enquête soit déclenchée. Ça avait été annoncé il y a quelques jours. Et donc, d'autant plus, on comprend moins que ça se retourne encore une fois vers nous.
À quoi il joue le gouvernement là? Il fait quoi? Il fait du chantage avec vous? Il vous dit attention, on a ce décret qui est prêt, et ils se disent bon ben, au moins c'est une menace.
Apolline de Malherbe, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai un peu d'expérience maintenant. Il y avait déjà eu des choses avec un moment il y a quelques années pendant la guerre en Ukraine. Il y avait eu un pic aussi sur les prix du carburant et là on nous avait demandé de vendre à perte. Et c'était exactement le même scénario.
C'est illégal.
Et ça n'était pas possible, on ne pouvait pas vendre à perte, mais ils voulaient prendre un texte, on l'a expliqué longuement, et le texte n'est jamais sorti. Je pense qu'on est dans le même scénario cette fois.
En fait, c'est quoi? C'est du bluff? C'est du chantage? C'est une forme de dissuasion politique?
Mais je comprends aussi le gouvernement qui est pieds et poings liés avec une marge de manœuvre budgétaire qu'il n'a pas. Et donc, à un moment, il cherche des solutions. En l'occurrence, celle-là n'est pas une bonne solution pour aider les Français.
Vous faites parce quoi qu'au comme bout marge du compte, vous faites quoi comme marge? Au litre, il y a combien qui arrive dans les poches de
litre,
coopératives?
Un, deux ou trois centimes. Mais quand la période est aussi tendue que ça, les clients, tous les jours, regardent le totem avec les prix devant les magasins. Tous les jours, ils ne regardent que ça et ils vont moins cher. Donc, si vous n'êtes pas dans votre zone...
De toute façon, vous êtes obligé d'être compétitif.
Mais bien sûr, on est obligé. Et si on ne le fait pas, je vous assure, les clients partent ailleurs et ils ont raison de travailler et de faire comme ça au jour le jour.
Alors donc, maintenant, on fait quoi? La question, comme on le disait, des raffineurs, alors principalement Total pour nous en France, est-ce qu'effectivement, en vrai, c'est à eux de faire l'effort?
Je pense qu'il y a des marges de manœuvre à ce niveau-là. Je rappelle quand même, la presse a révélé il y a quelques jours que rien que sur le mois de mars, grâce à des positions spéculatives, Total Energy a fait 1 milliard de résultats sur une opération très précise.
Ils ont particulier acheté immédiatement.
Voilà.
Alors votre confrère et concurrent Michel-Édouard Leclerc disait au fond c'est très bien joué du point de vue économique, voyant le début de la crise. Monsieur Pouyanet, le patron de Total, a acheté immédiatement 7 pétroliers pleins en se disant ça fera du stock.
Tout à fait.
Avant que les prix ne montent.
Exactement. Donc je dis bravo à Total Energy, je dis bravo à ses résultats.
Ça veut dire qu'il y a du gras.
Voilà.
Il y a 1 milliard.
Voilà. Et c'est pour ça que pendant la crise, il y a quelques jours, je lançais aussi un appel aux pétroliers à nous vendre à nous aussi moins cher pour qu'on puisse tous vendre un peu moins cher aux Français. C'est la seule chose qui compte.
Donc, il y a la question des marges des raffineurs. Il y a la question des taxes de l'État. Quand on regarde nos voisins, Italie, Espagne, Allemagne baissent les taxes. Mmh. Est-ce que vous estimez que la France doit le faire?
On n'a plus de marge de manœuvre budgétaire et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Et donc pour moi, le vrai sujet derrière tout ça, je dirais, on est au bout du sujet et enfin, il faut prendre les mesures qui nous ferait en France dépenser moins, réduire ce fameux déficit et dégager des marges de manœuvre en cas de crise.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le problème, il est global pour vous?
Tout à fait.
Ce sont les choix budgétaires de la France.
Mais oui, c'est une histoire de ces dernières années qui nous conduisent là. Les pays européens qui ont pu faire des efforts sont en meilleure posture budgétaire, ont une meilleure croissance, ont un déficit qui s'est amélioré ces derniers temps. C'est pas le cas de la France. Et donc, pour moi, c'est un signal de dire, on est au bout. Maintenant, quelles sont les mesures qu'on prend pour changer cette situation?
Ce que vous dites, c'est que vous comprenez que, en l'état actuel, et si les arbitrages budgétaires n'avaient pas été ceux, finalement, assez peu courageux, si je vous entends, des derniers temps, on aurait pu baisser les taxes. Mais en l'état, on peut plus.
En l'état, je pense qu'on ne peut plus, malheureusement. Et pour moi, la seule solution serait éventuellement, donc pas une baisse, je pense, de taxes peut-être massive, mais d'aider à terme ceux qui en ont le plus besoin.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire une aide ciblée. Avaient été promises, ces aides. Elles ont été un tout petit peu mises en place, mais enfin, surtout sous forme de prêts ou de garanties, ouais. Mais pas tellement en termes d'aide. Je recevais hier un infirmier libéral, représentant de la profession, qui disait on en est à refuser de nouveaux patients, mm-hmm. parce que ça nous coûte d'aller faire des actes, notamment lorsque l'on est dans un monde rural avec des personnes isolées, des personnes âgées, et donc qui vont se retrouver à ne plus être soignées.
Par exemple, ce public-là, mais aussi les transporteurs, les pêcheurs, pour qui c'est impactant immédiatement, eux, c'est leur revenu qui baisse immédiatement, et les agriculteurs. Mais ça, c'est au gouvernement de décider. Voilà, moi je...
Donc, ces taxes, ok, on n'en a pas les moyens. Les aides, vous vous dites, attention, il faut aider et vraiment cibler ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, vous proposez, avec les autres distributeurs, de suspendre temporairement la collecte des certificats d'économie d'énergie. Alors, on se souvient, ces certificats d'énergie, c'est arrivé il y a quelques mois. C'est une manière de contribuer la transition énergétique.
Ça existe depuis un certain temps, mais ça a été revalorisé au 1er janvier.
15 à 20 centimes par litre. C'est pas une taxe, c'est vous qui en quelque sorte êtes vos propres collecteurs d'impôts.
Exactement.
C'est-à-dire vous mettez de côté ces centimes. Pourquoi vous le faites pas tout de suite de arrêter ces 15 centimes? Vous pourriez tout de suite faire baisser, non?
Ah ben non, mais nous on n'a pas la main sur ce sujet-là. On est obligé aujourd'hui de respecter les textes et de collecter ça. Donc il faudrait une décision.
Il me semble quand je vérifie qu'il y a une obligation sur 5 ans. Ça veut dire qu'effectivement au bout des 5 ans vous devrez avoir récolté tant. Mais vous pourriez aussi vous en quelque sorte dire ben on récoltera un peu plus après, mais là, dans ce temps de disette et de crise, on baisse de 15 centimes notre litre.
C'est quelque part notre proposition, c'est de suspendre ça provisoirement. Mais attendez, là, on en discute, mais nous, le retour qu'on a eu hier, c'est que c'est déjà négatif, que le gouvernement il n'est pas d'accord avec cette contre-proposition. Donc, voilà.
Ils disent, on a un objectif, s'assurer, voilà ce que Maud Bréjon a déclaré hier, s'assurer que les baisses seront répercutées aussi vite que les hausses. Ils continuent à vous dire que ça n'est pas normal que le prix soit aussi élevé.
C'est l'explication qu'on vient de faire il y a un instant. Des stocks qui se réduisent, doucement parce que les gens consomment moins qu'au début de la crise. Par contre, je répète devant vous mon engagement que je dis depuis des semaines chez Coopérative U. On s'engage à répercuter au plus vite les baisses comme on avait répercuté les hausses parce qu'on achète au quotidien. On achète au quotidien.
Dominique Schelcher, on va revenir aussi sur les conséquences. La croissance de la France a été revue à la baisse. L'inflation va sans doute remonter. Et ce sera sûrement visible dans vos propres rayons. Mais il y a aussi deux questions que je voudrais vous poser encore sur l'essence. L'une, sur le tournant. Vous aviez situé, je me souviens, au-delà de 6 semaines, oui. C'est ce que vous aviez déclaré oui. Au début de la crise, au-delà de 6 semaines, ça va être de plus en plus difficile, à la fois sur les prix et sur la disponibilité. On y est. Ça fait 6 semaines. Est-ce que ça veut dire que désormais, en plus de la question des prix, et notamment de la spéculation, de la hausse des prix, peut désormais surgir un problème de pénurie ?
À date, il n'y a pas de pénurie. Il y a des ruptures ponctuelles. Il faut faire la différence entre pénurie, donc non accès à la marchandise, et rupture ponctuelle, parce qu'à un moment, il y a une station qui a beaucoup vendu. Donc, il n'y a pas de problème de pénurie ce matin. Mais plus le conflit va durer, plus les chaînes logistiques mondiales sont perturbées, plus il y a un risque à terme d'avoir une perturbation. Et Monsieur Pouyanet, patron de Total Energy, l'a dit lui-même. Deux produits, le kérosène, mais pas que le kérosène, le diesel aussi. Pourquoi le diesel? Parce que le diesel, on ne le fabrique pas en France, on l'importe. Et dès que, dans une période où les chaînes logistiques sont perturbées, où on est dépendant d'une importation, c'est là que ça peut, à terme, coincer. On n'en est pas encore là. Mais plus le conflit va durer, plus il y aura des questions. Et là, il faudra interroger
On est dans ce tournant. On est dans ce moment où vous dites attention.
On y est. Et ce que j'observe ce matin, mais là, c'est les spécialistes qui le diront, on a l'air de partir dans un conflit qui dure sans résolution directe, avec un prix du baril élevé et des perturbations logistiques. Et je vais vous donner un exemple.
C'est le transport. Hein.
C'est le transport. Quelle est la partie du monde où c'est le plus compliqué? En Asie. En Asie, aujourd'hui, il y a des rationnements de carburant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Asie se bat pour avoir des pétroliers. Et donc, parfois, il y a des pétroliers qui sont déroutés vers l'Asie et ce pétrolier n'arrive pas en Europe. Et donc, demain, si ça s'amplifie, ça peut...
On sera obligé d'arriver à une logique de rationnement?
On n'en est pas du tout là. Mais la question est là et il faut continuer à observer et à surveiller ça de très près si le conflit dure.
Ce matin, j'avais une auditrice sur RMC, Christelle, qui m'appelait du Loiret et qui fait de nombreux kilomètres tous les jours pour aller travailler. Elle dit on est au bord d'un burn-out de gasoil. Voilà ce qu'elle avait comme expression. Elle avait été gilet jaune. Elle dit aujourd'hui, honnêtement, moi, je vais passer à une forme quasiment, elle dit, je vais me mettre en arrêt maladie, cette fameuse expression, mais au fond, elle dit, parce que je n'ai plus les moyens d'aller travailler, je ne vais pas payer pour aller bosser. Elle dit, ce ne sera peut-être pas les gilets jaunes, ce sera peut-être une grande épidémie d'arrêt maladie parce qu'on ne pourra pas aller travailler. Est-ce que ça, vous commencez à le ressentir, y compris parce que vous êtes aux avant-postes aussi de la vie des Français et de leur consommation?
Je sens une énorme résignation et une adaptation quotidienne. Les Français sont dans l'adaptation autour d'abord de la voiture et du carburant. Si la question, par exemple, il n'y a pas d'impact visible vraiment dans le caddie. Mais par contre, l'utilisation de la voiture, je fais un trajet en moins, j'emmène plusieurs enfants à l'école, je ne vais pas au restaurant en voiture et je me pose déjà des questions sur mes vacances en été en voiture. Ça, on est complètement dedans. Mais je sens plutôt une sorte de résignation, de dire encore une crise qui nous tombe sur la tête et on trouve les meilleures solutions pour y faire face. On est là-dedans pour l'instant.
Est-ce que vous anticipez un retour de l'inflation?
Actuellement, nous répercutons dans nos magasins sur la partie alimentaire uniquement le résultat des dernières négociations qui se sont achevées le 1er mars et qui nous sortaient une très faible inflation entre 0 et 1%. Et ça n'est que ça. Il n'y a à date d'aujourd'hui aucun impact de cette guerre en Iran sur les prix de l'alimentation. Mais des questions se posent, encore une fois, s'il dure à long terme. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du carburant, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du plastique. Les billes de plastique qui permettent de fabriquer nos emballages, nos barquettes pour la boucherie, le plastique qui emballe, etc., vient beaucoup de cette région du monde. Et donc là, on a des premiers signaux de quelques industriels de dire, attention, il y a le carburant, il y a le plastique, ça nous pose un problème.
Est-ce qu'ils vont, à ce moment-là, refrapper à la porte et dire, nous sommes obligés de renégocier? Je précise bien, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, en effet, habituellement, une fois par an, vous décidez des prix. Et dans Absolument. Ce cas-là, ça permet une forme de stabilité tout au long de l'année. il est prévu par la loi une exception possible si vraiment ce n'est pas tenable. C'est-à-dire, il se pourrait que dans un mois, dans deux mois, si on s'installe dans un conflit durable, ils reviennent vous voir et qu'ils vous disent, voilà, moi, le prix de ma bouteille, le prix de mon emballage, ils ont trop augmenté, voire même le prix de mon engrais pour ceux qui font la matière première. Et qu'ils vous disent, on rouvre les négos. Moi, je peux plus vous le vendre au prix où on avait signé le contrat. Ouais. Je suis obligé d'augmenter les prix. Est-ce qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui qui commencent à vous dire ça coince?
Il y a les premiers coups de téléphone, mais pas de demandes massives comme en 2022 au moment du début de la guerre en Ukraine. Donc, je pense que tout le monde est en train d'essayer de chercher des solutions. Même nous, les camions tous les jours qui livrent nos magasins, ça nous coûte plus cher en carburant. Mais pour l'instant, on l'absorbe, on l'assume, on le prend en charge. La question, c'est si ça dure. Sur ces points, il y a une alerte. Je relativise un peu le sujet de l'engrais parce que, heureusement, beaucoup d'agriculteurs français s'étaient couverts pour cette année, parfois même sur deux ans. Pas tous. Ceux qui sont couverts, ça va aller pour cette année. Par contre, l'année prochaine...
Ils seront ouverts, vos magasins, le 1er mai ou pas?
Ben non.
Non?
Ben non.
Il n'en a jamais été question?
Il n'en a jamais
lorsque
été question.
Lorsque la CGT disait que l'un des motifs d'opposition à ce projet du gouvernement, c'était de dire que ça allait vous permettre à tous d'ouvrir.
Mais nous, on n'a jamais, chez Coopérative U, été des défenseurs de cette ouverture-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que nos collaborateurs puissent se reposer. Et on n'a jamais, nous, demandé l'ouverture du 1er mai. Par contre, que les boulangers, que les fleuristes, mais de manière très ciblée, pour que derrière, il n'y ait pas de sujet de concurrence non plus, que eux puissent ouvrir s'ils le veulent, eux-mêmes, sans collaborateur. Pourquoi pas? Mais nous, on ne le réclame pas, on ne le souhaite pas, et on est content un jour que...
De pouvoir souffler.
Qu'on puisse souffler, absolument.
Merci beaucoup, Dominique Schelcher, d'avoir Merci répondu à mes questions ce matin. Vous êtes donc le président de Coopérative U, tous les magasins U. Vous le dites, ce décret qui a été évoqué par le gouvernement, vous n'y croyez pas, vous pensez qu'il n'arrivera pas, et de toute façon, il serait injuste, inapplicable et illégal. Voilà ce que vous nous dites. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité était Dominique Schelcher, le patron de la coopérative U. Il est resté avec nous. Rebonjour Dominique Schelcher.
Bonjour.
Et nous avons bien sûr parlé du prix des carburants. Bruno Le Maire voulait réagir. Bonjour.
Mais oui, bonjour à Pauline, bonjour à Dominique Schelcher que j'ai écouté attentivement. Mais il a raison, le Dominique. Faut que l'État baisse les taxes sur les carburants. Faut pas se laisser endormir, Dominique, par les gens de Bercy qui disent ouin ouin ouin, on a plus d'argent dans les caisses. Moi, si je m'étais arrêté à ce micro détail de la dette, franchement, j'aurais jamais rien fait, hein, quand j'étais ministre de l'économie. Hein. Souvenez-vous que moi j'arrosais tout le monde, hein. Les commerces, les intermittents, votre grand-mère, votre chien, Royal au bar, le nono. Hein, il pleuvait des biftons. J'étais un rappeur dans un club de striptease. Faut apprendre à lâcher la thune.
Ouais, la thune, ouais, bien sûr. Merci, monsieur le maire. Sans plus attendre, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, bonjour, mon Apolline. Jordan Bardella, sa princesse, Maria Carolina Bourbon des deux Siciles. Moi, j'ai la mienne. C'est vous. Oh, oh oui, vous êtes Maria Apollina de Malherbe des deux Sables.
Voilà.
Oui, là, c'est moins glamour que la Sicile. Écoutez, si vous le permettez, votre Altesse Apollina, si vous le permettez, je voudrais passer une annonce. Oui. En tant qu'amateur d'objets anciens, je recherche un objet du passé, très difficile à trouver. Un totem de station-service qui affiche l'essence à moins de 1,70€. Ah. Oh, oui. Hein. Monsieur Schelcher, mais où peut-on trouver ça? J'adore les jeux de mots.
Allez, c'est parti politique.
C'est parti politique. Les catholiques américains en veulent à Donald Trump d'avoir publié une image où il se prend pour Jésus. Ben oui, ça aurait été quand même plus utile qu'il se prenne pour Moïse. Au moins, il ouvrait la mer en deux et il libérait le détroit d'Hormuz. Oh,
merci beaucoup Stéphane. Dans une lettre cinglante adressée au tribunal, Claude Guéant assure que dans le dossier libyen, il n'a fait que suivre les instructions de Nicolas Sarkozy. Monsieur Nicolas Sarkozy est avec nous, bonjour.
Quelle indignité, man, Pujadas. Moi, donner des instructions? Mais alors, j'ai jamais rien donné de ma vie. On dit que je donnais des conférences à 5000. Je les donnais pas, je les vendais. Et d'ailleurs, tous mes clients pourraient témoigner combien de fois j'ai entendu, eh bien, Sarkozy, c'est pas donné. C'est vous dire.
Il dit que vous lui avez donné des instructions.
Non, mais les instructions, c'est les instructions, c'est pas mon truc. Moi, c'est les juges d'instruction, mon truc. Mon truc à moi. Voilà, c'est
enfin,
tout.
Quand même, c'est un témoignage accablant. Vous risquez de retourner en prison, hein.
Non, mais écoutez, excusez-moi. Je sais que la mode en ce moment, c'est d'être en cabane. Mais il n'y a pas marqué Vianney ici.
Ah oui.
Hein, d'accord. Marqué Vianney quelque part. Il paraît qu'il va écrire des chansons depuis sa cabane. Finalement, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse moi aussi. Que j'aille en cabane. Mais si je vais en cabane, derrière, je serai inspiré, je sors un disque, l'album d'un prisonnier.
Voilà.
Avec bien sûr une petite chanson sur Guéant et Hortefeu, ça mange pas de pain. Et ce serait, c'est pas vous, c'est vous. Pas moi, c'est pas moi. C'est vous, c'est pas moi, c'est vous. Il y a moyen de prendre un petit billet avec ça.
Merci beaucoup, monsieur Sarkozy. Après l'échec des négociations au Pakistan entre Américains et Iraniens, les Américains ont déjà entamé un blocus du détroit d'Hormuz qui était bloqué par les Iraniens. Donc pour y voir plus clair, on est avec le consultant militaire de BFM TV, vous êtes tout. Celui qui est à l'antenne 24 heures sur 24, le général Félix Randy. Vous ce qu'il est. Il a mis son
alors, c'est une situation complexe. Et je vais vous simplifier au maximum pour vos auditeurs. Et je vais simplifier aussi pour moi, pour essayer de comprendre ce que je raconte déjà. Parce que moi-même, j'ai du mal à me suivre. Hein. Parce que pour tout vous dire, la marine, moi je suis, on parle des bateaux depuis 47 jours, et moi je suis général de l'armée de terre.
Ah oui, ah bah
c'est
alors.
Donc c'est vous dire si je flotte.
Oui.
Hein. Alors, j'ai préparé une carte, bien sûr. Enfin, j'avais préparé une carte. Mais bon, ma femme est partie à la Kangoo ce matin, et donc, là, bon, bref, j'ai plus la carte. Oui, parce que moi, j'ai la facilité à commander les hommes, et ma femme, c'est une autre paire de manches.
Alors, dis-nous quand même ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz.
Ce qui, déjà, qu'il faut comprendre, c'est que les bateaux. Il s'agit de bateaux. Le théâtre d'opération des bateaux, c'est l'eau. Tout ce qui est maritime, l'eau, la mer, les océans, tout ce qui est naval, l'eau minérale, l'eau plate, pas gazeuse, les bateaux. Donc ça c'était grand 1, les bateaux. Grand 2, oui parce que je suis très pédagogue, grand 2, où qui sont les bateaux. Et en 3, bien sûr, parce que c'est construit, en 3 nous verrons quoi qu'ils font les bateaux. J'ai pas la carte, mais quand même... Bien sûr, j'ai amené ma baguette. J'ai amené ma baguette. Mais oui, c'est important. La baguette, c'est important. Oui, parce qu'il y a la tradie. La baguette tradie. Moi, j'ai la police tradie.
Merci, voilà.
Alors, oui, parce que je vous explique, parce que je suis très pédagogue. Alors, je vais utiliser une métaphore. Parce que les bateaux, c'est comme... C'est comme dans ce studio, chacun a sa mission.
Oui.
Vous avez des gros bateaux et des petits bateaux. C'est pas le même bateau. Il y en a des gros et des petits. Par exemple, vous avez le Abraham USS Texier.
Oui.
C'est le plus gros bateau. C'est le plus grand. C'est le porte-avions.
Ah, d'accord.
Alors, ici, vous avez également, là-bas, vous avez le Neumann. Alors, oui. C'est un très beau destroyer. Très beau destroyer. On voit bien, là, c'est un très beau destroyer. Alors, c'est une conception quand même assez ancienne. Ça a été fabriqué.
C'est quoi cette baguette?
Ça a été fabriqué dans les années 60. C'est pas tout neuf.
C'est quoi, c'est une
canapé? Oui, non, c'est pas une canapé. Non, pas du tout. C'est une baguette de général d'armée qui vendait effectivement dans les rayons pêche des Décathlon. Mais bon, c'est totalement le hasard. Alors, sur le Neumann, qui est un très beau destroyer, on voit que c'est un beau bateau, ça marche bien. Il y a quand même des petits points de corrosion. Il y a des petits pleins de rouille, mais c'est increvable. Ça fait du bon boulot.
Voilà,
alors, après, on a
un.
Alors, bien sûr, on a la très belle frégate, hein, une très belle frégate, la Apolline de Malherbe.
Ah oui,
frégate, bien sûr. C'est sympa. Ça va sur tous les terrains d'opération. Hein. Chez BFM, chez RMC, dans les couloirs, la machine à café, ça sait tout faire, les enfants, ça fait tout. Alors, on a également un bateau de pavillon étranger, le Stéphane Bureau, pavillon étranger, Canada, on ne sait pas ce qu'il fout là. Il mouille ici, il mouille là, on ne sait pas ce qu'il fout ici. On a également, alors on a un bateau ravitailleur. On a le Chelcher. Il y a du mal à ravitailler. Et comme son nom l'indique, c'est cher. Et puis alors, on a également...
La baguette décoincé.
Dima Pellistradi qui est coincé. Alors, on a pour terminer, on a une petite vedette peu rapide. On a des vedettes rapides. On a la petite vedette, il y a la petite vedette, le demain, je suis
ah oui, bien sûr.
Et puis, l'arme de manche. Il y a le canteloup. Alors, il y a beaucoup de chevaux, 400 chevaux, ça coûte un fric fou, on la sort pas tous les jours. Moi, je vous laisse parce qu'il faut que j'en retrouve mes hommes de la 7e compagnie.
Merci beaucoup, Général Félix Rangy, Nicolas Canteloup, tous les jours 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Merci Dominique Schelcher d'être resté avec nous dans un instant. Les GG, le programme, Alain.
Eh bien, dans les grandes gueules, nous reviendrons sur la proposition des distributeurs. Ils disent au gouvernement, arrêtez avec votre usine à gaz. Il faut plutôt s'en prendre au certificat d'économie d'énergie, les CE, qui représentent 15 à 20 centimes par litre. Est-ce qu'ils ont raison? Emmanuel Macron, le président de la République, il va promouvoir la journée de déconnexion et de la lecture pour les jeunes. Et puis, on reparlera aussi de la suppression des ZFE, ainsi que de ces jeunes qui ne veulent pas prendre d'emploi s'il n'y a pas de journée de télétravail. À tout de suite au 32-16.